On accueille maintenant Laetitia au 3921. Bonsoir Laetitia.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Merci de
Je vous en prie.
Recevoir.
Je vous en prie. Qu'est-ce qui vous amène Laetitia ?
Alors, tout simplement pour parler de l'association, mon association, Oléa, ouais. Justement, ça intervient après le témoignage de Paul, qui m'a interpellée.
Oui.
Parce que l'association vise à défendre les droits des femmes et des enfants après les violences conjugales, parce qu'on entend beaucoup parler des violences conjugales depuis 2 ans, mais on parle beaucoup de pendant les violences conjugales et très rarement de l'après. Et justement, au vu de tout ce qu'on a pu voir, parce que moi, pour ma part, je travaillais dans le milieu associatif, je trouvais qu'il y avait une justement, bah, quand j'entends des témoignages comme Paul, un sentiment amer. Enfin, c'est très compliqué justement pour les enfants, parce que lui, c'était un enfant, hein, mais il y a justement cette touche de noirceur, alors qu'il y a énormément de femmes et d'hommes, d'enfants, qui, après ces violences-là, vont faire de grandes choses. Et on ne veut pas laisser les victimes toute leur vie dans leur statut de victime. Et ça, c'était très important pour nous. C'est pour ça aussi qu'on a créé cette association-là, avec d'anciennes victimes, pas que, mais avec des anciennes victimes, justement, parce que bah, les anciennes victimes savent de quoi elles parlent. Et on voulait surtout arrêter de... Enfin, les victimes, celles qui sont dans l'association, on en a assez de toujours être perçues comme victimes, à vie.
D'accord, voilà. D'accord. Et donc... Et donc, vous avez dit que vous aviez monté cette association avec des anciennes victimes. Vous êtes vous-même une ancienne victime ?
Oui, moi je suis une ancienne victime, oui. Exactement, oui.
Et que s'est-il passé pour vous ? Vous pouvez m'expliquer un peu dans quel contexte ?
Oui, enfin, j'en parle librement justement parce que ça fait très longtemps. Initialement, moi je suis conseillère dans une association pour les enfants.
Oui.
Pour la protection de l'enfance. Et comme quoi, on dit que les cordonniers sont la plupart du temps les plus mal chaussés, mais ce n'est pas faux. Et dans cette période-là, en fait, moi, j'ai été victime de mon ex-compagnon. Voilà. Donc, un soir, il est rentré chez moi, il m'a tapé, j'ai été opérée en urgence. Et depuis, voilà, j'ai été protégée par la justice pénale, heureusement. Et maintenant, je mène un combat pour ma fille. Parce que la justice civile ne réagit pas de la même manière.
Oui. Voilà. Vous avez été donc protégée par la justice.
J'ai une protection. J'ai une protection, oui. Oui, j'ai une protection. Après, objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin, pour mon cas, à moi, parce qu'il fait partie des hommes qui restent très sages. Donc la justice est là. Il réagit différemment avec les institutions, avec voilà, c'est un profil bien particulier. J'en parle très peu parce que il m'envoie souvent au tribunal, donc c'est pour ça que je reste très discrète sur mon histoire personnelle parce qu'il m'a déjà attaqué parce que mon histoire est connue. Voilà.
D'accord. Donc vous faites encore attention à ce que vous dites aujourd'hui par rapport à cet homme.
Je fais très attention. Oui, alors moi j'avais publié une vidéo justement pour que. Bah parce que en fait, moi, quand j'ai porté plainte, il a été condamné. Et suite à ça, lui, il a fait un appel. Et derrière, il a appelé tout de suite des avocats pour notre fille. Et en fait, il voulait obtenir... ce qu'il demande, c'est la garde totale. Donc, c'était très, très compliqué. La petite, elle est avec moi.
Oui.
Donc, heureusement. Moi, je voulais des visites médiatisées, ce qui me semblait le plus logique au vu de ses problèmes. Chose qui m'a été refusée. Incroyable, mais vrai, mais chose qui m'a été refusée. Et j'ai décidé, après ça, de faire un appel auprès de la cour d'appel, tout simplement. Voilà.
Parce qu'il devrait pouvoir voir sa fille, avoir la garde de sa fille un peu ?
Alors oui. Maintenant, le juge a statué en lui demandant même les week-ends. Elle peut aller dormir chez lui. Bon, ma petite fille ne veut pas.
Oui.
C'est un peu compliqué.
Quel âge a-t-elle ?
Elle a eu 4 ans, là.
D'accord.
Voilà, elle a eu 4 ans. C'est une petite fille pleine de vie, qui va très bien. Mais bon, c'est toujours... Alors nous, on est très accompagnés, on est très soutenus par une équipe thérapeutique.
Oui.
Parce que justement, pour se reconstruire, il nous faut ça. C'est bien un minimum. Et Donc voilà, donc j'avais diffusé cette vidéo pour parce qu'il disait que c'était un fait isolé. Voilà. Donc j'ai reporté
isolé.
Plainte derrière.
Comment ça, qu'il vous ait battu?
Voilà, oui, il disait que c'était par inadvertance, c'est un fait isolé, c'est ce qu'on lit dans les conclusions de ses avocats.
Vous avez pris un coup par inadvertance, donc si je comprends rien.
Oui, j'ai eu une petite opération du nez quand même.
Oui, d'accord.
Mmh. Voilà, étant donné que j'étais une ancienne victime, parce que ça arrive et c'est pour ça que c'est très important de se reconstruire correctement, j'ai mis énormément de temps à porter plainte justement contre cet homme parce que j'avais cette crainte d'avoir ce genre de discours et il utilise mon passé, tout simplement. Donc heureusement que j'ai des spécialistes qui démontrent que j'ai été opérée une fracture. Vous savez, il y a différents types d'opérations pour le nez. Et en fait, ça a été une fracture qu'on peut opérer que sous 10 jours.
D'accord.
Donc, ça ne pouvait pas être une ancienne fracture, comme lui aimerait le prétendre.
D'accord. Donc pour l'instant, vous allez lancer ça en appel, si je comprends bien, parce que vous refusez...
Non, c'est lui. Lui, il a été condamné. C'est lui qui a fait appel parce qu'il trouve que sa condamnation était un peu trop lourde à son goût.
Il a été condamné à quoi, en fait ?
18 mois de prison de sursis, 3 000 euros de dommages et intérêts. J'ai une injonction. Il a une injonction de soins.
Mmh. Il n'a pas le droit de s'approcher de vous ?
Ni de l'appartement. Il y a aussi. Et puis, ma protection, voilà. Donc, et les soins, qui va une fois par mois, ce que j'ai compris. Donc, entre nous, c'est pas des soins.
D'accord, mais il y va ? Vous savez s'il y va ou pas ?
J'en ai aucune idée. Mmh. Je sais que j'ai, enfin, ce qu'on a pu voir dans les dossiers avec mes avocats, c'est qu'il nous a donné même quelques papiers. C'est vraiment une fois par mois, hein, la visite, à ce que j'ai compris. Le médecin confirme qu'il est bienvenu. Au rendez-vous, quoi. Après, lui, il a fait des prises de sang pour prouver qu'il buvait plus. Bon. Vous savez, après, moi, j'ai justement, le procureur a pris les audios. J'avais porté plainte, justement, suite à ça, en juillet 2019. J'ai porté plainte avec les audios que j'avais retrouvés. Il me menaçait de mort, ça faisait 3 ans. 3 ans, j'avais des menaces de mort quotidiennement. Et le procureur a décidé, là, au mois de septembre, de le poursuivre.
D'accord. Et en fait, des menaces de mort enregistrées ?
Oui. Oui, d'accord. Oui. Parce qu'initialement, je l'enregistrais pour lui montrer qu'il avait un problème d'alcool.
Oui.
C'est ce qu'on m'avait conseillé de faire, pour le mettre sur fait accompli le lendemain. Et je pensais que je ne les avais plus du tout, ces vidéos. Et finalement, c'est ma plus grande fille qui va les retrouver dans un disque dur.
D'accord.
Comme quoi, hein.
Parce que normalement, voilà, on peut aller en prison pour des menaces de mort. Hein. Je crois que c'est
alors,
très grave.
En fait, l'histoire, c'est qu'il me menace de mort, moi et mes filles. Enfin, c'est très... Voilà. Donc moi, en fait, on a fait un montage avec mon président. On l'a diffusé sur les réseaux. Ça s'est beaucoup partagé.
Oui.
J'ai témoigné pour dire, étant donné que vous avez tendance à penser que... Vous savez, quand les portes, elles se ferment, c'est ce que je dis hein, dans la vidéo. Depuis, je l'ai effacé pour le procès, mais quand les portes, elles se ferment... on ne peut pas savoir vraiment ce qui se passe. Donc, j'ai ouvert les portes et c'est compliqué même d'en parler encore ce soir parce que j'essaye de ne pas trop y penser. Mais c'est la réalité, quoi. On a les menaces de mort. Il menaçait de me prendre mon enfant alors que j'étais enceinte. Donc, imaginez-vous que c'était très compliqué. Voilà, maintenant, le procureur, lui, il a porté plainte quand il a entendu l'audio. Et en fait, moi, je ne suis pas poursuivie pour ça. J'ai eu un rappel à la loi parce qu'on n'entend ni son nom, hein, parce que je connais un peu le droit. Je suis juriste, donc on n'entend pas son nom, on ne voit pas son image, mais on entend sa voix. Et il a porté plainte pour sa voix. Voilà. Donc, j'ai un rappel à la loi. J'ai un rendez-vous chez le procureur bientôt, ce qui est fou. Hein, mais,
vous avez un rappel à la loi parce que vous avez...
Diffusé la vidéo.
Diffusé la vidéo, oui.
Mmh. Voilà.
Pourtant, alors, un rappel à la loi parce que vous n'avez pas le droit de diffuser cette vidéo tant qu'il n'a pas été condamné.
Oui. Non, j'ai pas le droit tout simplement. C'est le droit d'auteur, le droit à la voix. Enfin, c'est vous qui connaissez un peu mieux ce droit-là. On n'a pas le droit d'utiliser la voix d'une personne.
Ah oui, c'est vrai. Je ne pensais pas à ça. Oui, oui.
Et oui, c'était très subtil. Même la police était très étonnée. Ils connaissaient pas du tout ça. Ils étaient choqués. Et voilà. Mais en attendant, là, alors lui, il a porté plainte pour sa voix, mais en attendant, le procureur le poursuit pour menace de mort suite aux diffusions. Donc, vous voyez, je me dis que c'est... Bon, c'est, pour moi, c'est difficile, hein, c'est un coup dur, mais je me dis que j'espère obtenir gain de cause quand il sera jugé bientôt.
Oui, oui, oui. Bah, il faut croiser les doigts, en tout cas.
Oui, je l'espère.
Oui.
Je l'espère.
Cette association, vous m'avez dit que vous l'aviez montée donc avec d'anciennes victimes, mais elle a la particularité aussi d'avoir des hommes.
Oui.
Pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que je crois que c'est un choix important, moi, ça.
Oui. Oui, oui, bah nous, on voulait mettre des hommes parce qu'on en avait un peu marre dans le milieu féministe d'entendre beaucoup de femmes, excusez-moi du terme, hein, je castrer les hommes, les mettre de côté, toujours dire que tous les hommes sont les mêmes. Non, tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il y a des hommes très bien, heureusement. Il y a des hommes avec qui je travaille et des hommes qui militent pour le droit des femmes qui sont exceptionnels. Et on a vu sur... Enfin, parce que moi, je suis vraiment dans le milieu, mais dans ce milieu-là, ils sont très... En fait, ce que nous, on se disait, c'est qu'on ne pouvait pas, vous savez, du jour au lendemain, on avait un monde patriarcal et aller de l'autre côté. Il faut un juste milieu. Voilà. Ce que nous, on veut, c'est de la juste... Voilà. Être juste. Donc, on ne peut pas dire que tous les hommes sont des monstres, parce que ce n'est pas le cas. Et on ne veut surtout pas éduquer nos fils et la future génération dans cette optique-là. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé à des hommes de travailler avec nous. Et je pense que c'est, je pense, la meilleure des décisions parce que, justement, comme ça, il nous apporte un autre regard. Et vous voyez, par exemple, quand on a pris des décisions pour la structure et pour le nom Oléa, il y a une définition, ça veut dire « ose »,« libère-toi, entreprends » et « aime-toi ». Et le « aime-toi », c'est un homme qui a pensé. C'est pas nous, les femmes.
Donc,
vous voyez, c'est subtil, hein, mais quand on parle aux hommes, les hommes, ils ont un autre regard. Et je pense que c'est très important d'impliquer les hommes parce que les hommes sont papa, son frère, son mari. Et voilà, il y a des hommes très bienveillants. Ça, il faut quand même le répéter parce qu'on a tendance à l'oublier.
Oui, oui. Vous avez raison de le rappeler parce qu'il y a beaucoup d'hommes bienveillants et beaucoup d'hommes qui prennent part hein, à ce combat et qui sont totalement en adéquation avec les femmes.
Exactement. Donc.
Comment ces femmes arrivent chez vous, en fait ? Comment vous les accueillez et qu'est-ce que vous faites dans les premiers temps ?
Écoutez, nous, dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que nous, initialement, on prenait les victimes à nous contacter directement. Je ne sais pas si vous connaissez Adeline, c'est l'ancienne vice-présidente des Putains de Guerrières, ça doit vous dire quelque chose. Et en fait, on a eu un... Je ne sais pas comment vous dire, on ne pouvait plus... accueillir la parole des victimes, c'était très compliqué pour nous parce que on n'arrivait pas à... Déjà, d'une part, on n'était pas des professionnels. Ça, c'était très important. C'est très important de le notifier parce que pour accueillir la parole des victimes, c'est très compliqué. Donc, nous, on a fait un choix, je pense, qui est peut-être probablement le plus juste parce que chacun doit avoir sa place. Nous, on a fait le choix de l'après. Voilà, on ne pouvait plus le pendant. C'est-à-dire que si on nous appelle, les victimes peuvent nous appeler, on va les rediriger vers des professionnels. Je dis bien des professionnels, des avocats, des psychologues, voilà, tout ce qui peut être, voilà, tout ce qu'on peut faire, on va le faire. Mais nous, on viendra qu'après. C'est-à-dire que quand elles auront fait toute cette démarche-là, nous, on arrive dans l'après, ça veut dire dans la reconstruction, tant sur le plan professionnel, parce que beaucoup de femmes, malheureusement, dans ces situations-là, se retrouvent dans une sans travail. Elles ont peu de formation. Ça, c'est souvent le cas, ce que je peux constater. Et puis, elles ont un manque de confiance en elles. Donc, il faut leur redonner confiance en elles. Il faut qu'on leur redonne aussi une estime. Et je pense qu'avoir des femmes, je mets des guillemets, comme nous, devant elles, je pense que ça peut les aider. Voilà. Et c'est pour ça que... Alors, nous, on s'occupe des femmes. Et moi, pour ma part, ça, c'est la vice-présidente qui s'occupe beaucoup des femmes. Moi, je m'occupe beaucoup des enfants. Parce que c'est ça mon domaine, c'est les enfants, la protection de l'enfance. Et moi, au cours de, justement, quand on a ouvert l'association, je suis tombée sur plusieurs adolescentes qui en soi ont été victimes. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les violences conjugales, c'est des anciennes victimes de pédophilie, hein. C'est des sujets très compliqués. Ouais. Et ces jeunes filles se sont prostituées. Et moi, j'ai pris en charge ces jeunes filles. Donc, c'était très particulier parce que c'était pour moi une première. Et je suis contente de le dire, mais une des jeunes filles, j'ai réussi à la sortir de son réseau. Et aujourd'hui, elle va très bien. Donc, voilà. Mais j'ai remarqué, justement, qu'il y avait une certaine défaillance dans nos institutions. Parce que, d'une part, ils pensent avoir la réalité du terrain, mais ce n'est pas vraiment le cas. Les adolescents qui viennent me voir me voient pas en tant que... Ils ne voient pas l'État, ils ne voient pas les institutions. Ils voient juste une femme. Et cette femme, ils vont pouvoir lui parler. Voilà. Donc moi, j'ai cette chance, en quelques semaines, à obtenir des informations que la brigade des mineurs ne peuvent pas obtenir, par exemple. Voilà. Donc je les prends sous mon aile et je m'en occupe. Voilà, c'est plutôt... difficile parfois parce qu'on n'a pas tout le temps tous les moyens, parce que il y a certaines, sur le plan juridique, c'est très compliqué aussi. Il y a des choses qu'on a le droit de faire, d'autres qu'on n'a pas le droit de faire. Donc voilà. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on voit que même la plupart du temps, les adolescents qui viennent me voir ont tous une trace de violence intrafamiliale. Et ça, c'est systématiquement. C'est systématique, c'est soit la maman qui a été battue, soit les enfants ont été victimes d'inceste, voilà, ou des violences entre frères et sœurs qui peuvent être... Ça, on en parle très rarement, mais ça existe. Là, j'ai le cas d'une adolescente qui a été battue par son grand frère, donc ça existe aussi, il faut quand même en parler. Mmh. Et on a beaucoup de cas comme ça, voilà. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur l'enfant, parce que je pense que l'enfant, c'est le futur, c'est l'avenir, donc tout part de l'enfant. Et si ces jeunes, on n'arrive pas à les remettre sur le droit chemin, on risque, voilà. Je pense qu'on risque déjà que notre société, elle va mal. Je pense que notre société risque d'aller encore plus mal si on ne prend pas soin d'eux.
Vous avez raison, vous avez raison. Vous accueillez donc les enfants aussi, vous faites des choses pour les enfants un peu?
Oui, je les accueille. Alors, la plupart du temps, j'ai cette chance que les adolescents, quand ils fuguent, ils viennent me voir. Donc, j'ai souvent les appels des brigades et des foyers parce que bah, les adolescents, quand ils s'en vont, ils viennent me voir moi. Mm-hmm. La plupart, ils sont dans des foyers d'ASE, ça se passe pas très bien. Ils sont même dans des hôtels parce que maintenant, ils sont dans des hôtels. Donc voilà, donc moi je les accueille, j'essaye de voilà, donc je préviens, hein, je dis qu'ils sont là et je leur dis voilà, ils vont revenir, ils ont juste besoin de parler, et généralement ça se passe bien, voilà, généralement ça se passe bien, mais c'est encore très compliqué, enfin l'ASE et tout le système, ils ont déjà un manque de moyens, faut pas tout le temps leur taper dessus à l'ASE des institutions parce qu'il y a aussi cette réalité de manque de moyens, de manque de moyens humains et financiers. Donc on ne peut pas tout le temps, voilà, je pense que nous, et les jeunes, je pense réellement, c'est ce qu'ils me disent, ils préfèrent réellement être avec des gens sans fonction, voilà, ils ne veulent pas de fonction, ils veulent juste des personnes humaines, et c'est pour ça que je qualifie notre association humaniste, pas féministe, mais humaniste, parce qu'ils veulent juste de l'humain, voilà, ils veulent, je pense que la jeunesse veut juste de l'humain.
Très bien, ouais, vous avez raison. Et vous avez appris beaucoup de choses depuis que vous avez monté cette association. Elle existe depuis combien de temps, cette association ?
Alors, on l'a créée au mois de septembre. On l'a créée au mois de septembre. On a pris le temps réellement de travailler sur les projets. Là, on a un très gros projet, c'est les maisons Maya, justement pour les adolescentes et les adolescents, parce qu'il y a aussi de la prostitution pour les jeunes garçons, pour pouvoir les accueillir. Voilà. Avec ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir l'agrément, donc pour ne pas se mettre hors la loi. Parce que quand moi j'accueille un enfant, plus ou moins je suis hors la loi. C'est un peu ça. Hein.
Oui, parce qu'il faut des diplômes, il faut beaucoup de choses, voilà, pour accueillir des enfants. D'ailleurs, vous êtes dans quelle région ? Je ne vous ai pas demandé, en fait. Parce que...
Je suis dans la région parisienne.
Dans la région parisienne, d'accord.
Oui, Porte-Clichy.
D'accord, simplement. D'accord. Oui, donc y en a des associations en plus à Paris, donc c'est compliqué d'obtenir l'agrément, comme vous dites.
Oui, non, c'est très compliqué. Et puis, vous savez, en plus, avec la méthode, vu que ce n'est pas une méthode qui rentrent dans les critères, ça peut être critiqué, même si les résultats sont là. Mais on commence à voir, moi je le vois parce qu'on m'appelle quand même pour travailler avec les adjoints au maire, enfin de la sécurité, tout ça. Ils m'appellent, donc ça veut dire qu'ils savent qu'il y a vraiment derrière des résultats. Et c'est ça en fait, ce que nous on veut, c'est des résultats. Donc je pense que ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et qu'on commence à faire accepter aussi notre méthode. Voilà.
Et donc,
et je pense qu'ils ne vont pas cracher sur de l'aide.
Et donc, parlez-moi donc de ces accueils. Vous l'appelez comment, ce projet, vous m'avez dit ?
Les maisons de Maya.
Oui, en fait, ça
les
va être quoi exactement ?
Alors, tout simplement, c'est les jeunes filles qui ont été dans les réseaux de prostitution, justement, les sortir de ces réseaux et surtout de les préserver, de les protéger. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire. C'est très compliqué parce que le cas d'une des jeunes filles, on a eu quelques petits soucis, c'est-à-dire qu'elle repartait pendant 2-3 jours, elle pouvait se prostituer et elle revenait. Donc derrière, c'est tout un travail qu'on doit recommencer.
Parce que vous êtes avec, en plus, Porte de Clichy, en fait, vous êtes dans la prostitution comme ça, de rue, de très jeune fille.
Alors c'est très... Ah ouais, non, mais c'est particulier. Moi, j'ai découvert un monde... j'en connaissais quand même des choses, mais là, c'est des jeunes qui prostituent des jeunes. C'est-à-dire qu'ils se mettent sur des pages web, ils proposent leurs services et les gamines vont au rendez-vous.
Ce sont des mineurs ?
Donc, oui, ce sont des mineurs, oui, bien sûr. Oui. Elles ont 14, 13, 15 ans, pas plus. C'est ça qui est horrible, en fait. Et les clients sont majeurs, et plus que majeurs, parce que j'ai récolté des preuves, et c'était des adultes de 30, 35 ans, et quand je voyais les jeunes filles, elles ne sont pas très vieilles. Donc c'est ça qui m'interpellait aussi.
Et en fait, ça vous est venu d'où, en fait ? Parce que, bon, bien évidemment, ce sont des jeunes femmes qui sont en situation de violence, souvent, en tout cas qui ont connu des situations compliquées. Mais qu'est-ce qui vous a orienté sur cette situation ? C'est ce que vous avez constaté ? Comment vous êtes venue ?
Non, c'est ma fille. C'est ma fille qui m'a... Un jour, elle connaissait cette jeune fille. Elle m'a dit, maman, je pense qu'elle va avoir besoin de toi, et elle me l'a ramenée.
D'accord.
Voilà.
C'est votre grande fille, donc ?
Oui, une de mes grandes filles, exactement.
D'accord, parce que vous m'avez dit donc, que vous aviez une petite de 4 ans, mais donc il y a deux...
J'ai des grandes filles, 19 ans et 15 ans, bientôt.
D'accord, très bien. Donc c'est elles qui vous ont mis au courant de tous ces...
Oui, elles le font régulièrement. Hein, par exemple, quand on a eu les vidéos, les photos nude sur Internet, vu qu'elles sont très réseaux sociaux, elles sont venues me prévenir. Voilà.
Mais oui, parce qu'il faut que vous qui nous écoutiez, vous soyez au courant encore une fois, des vertus de ces réseaux sociaux que sont Snapchat, TikTok, Instagram.
Oui.
De jeunes filles vont donc appâtent les gens les clients potentiels sur ces réseaux sociaux. C'est très surprenant de tomber là-dessus parce qu'on peut très bien tomber. Alors, moi, je ne suis jamais tombé dessus, mais j'ai un ami qui travaille au ministère de la Justice qui m'en a parlé l'autre jour et qui m'a dit, si tu savais le nombre de gamines que tu retrouves là et qui sont dans des réseaux tenus par des mineurs eux-mêmes.
Hein, oui, et c'est fait exprès. Il y a toujours quelqu'un au-dessus quand même. Hein. Mais c'est fait exprès, c'est pour... parce que les mineurs ne seront pas condamnés comme les majeurs. Oui. C'est vraiment très stratégique. Bah oui.
Dans quel monde on vit ?
Ils sont habitués.
Dans quel monde
on vit ? Mais c'est pour ça qu'aussi, nous, les jeunes filles, on veut leur redonner leur dignité parce qu'elles n'ont plus d'image, elles ne se respectent plus. Il y a des moments, c'est difficile, je ne vous le cache pas, parce qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Parce qu'on se dit, mais... puis moi, je suis maman, donc quand on est maman, on se met un peu à la place des parents. Les jeunes filles qui peuvent être prostituées, il ne faut pas avoir de stéréotypes, parce que, par exemple, l'une des jeunes filles, la maman était psychiatre, le papa conférencier. Donc, ça n'a rien à voir avec la classe sociale. Ça, il faut bien aussi le dire.
Rien à voir.
Parce que je pense que les gens ont une certaine image de la prostitution des mineurs, mais non, en fait... Ça peut arriver à
Ça peut tomber sur n'importe qui. Merci mille fois, Laetitia, pour votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On retrouvera vos coordonnées sur le site de la libre antenne d'Europe 1 pour celles et ceux qui veulent prendre contact avec vous. Et bravo pour cette action. Et je vous souhaite
Olivier,
plein de courage et force pour vous et tous vos membres. D'accord ?
Merci. Merci beaucoup, merci Olivier.
Au revoir, Laetitia.